Chapitre 31. La maison rue de la pleine lune.
Elles doivent rester ensemble,
dit Elaine, catégorique.
Vous deux, pour commencer, vous ne devriez pas être seules. Partout dans Kaemlyn, déplacez-vous par groupe de 3 ou 4 au minimum. C'est la seule façon d'être en sécurité.
2 lampes à déflecteur seulement étaient allumées, leurs flammes diffusant dans la pièce une chiche lumière et une odeur de lys. Pour supporter l'huile rance, il fallait la parfumer désormais, et une belle flambée dans la cheminée commençait à dissiper la fraîcheur des petites heures de la nuit.
« À certains moments, » dit Soumeko, « une femme a besoin d'intimité. »
Avec un calme régalien, comme si une femme de la famille, justement, ne venait pas de payer de sa vie cette quête d'intimité. Un calme régalien, vraiment? Si sa voix ne tremblait pas, les mains potelées de Soumeko lissaient nerveusement le devant de sa robe.
« Si tu ne leur apprends pas à craindre la lumière, » dit Alice, « je m'en chargerai. »
L'air sévère, contrairement à d'habitude, elle semblait être l'aînée des 2 femmes, comme le confirmaient ses cheveux grisonnants, comparée à la crinière aile de corbeau de Soumeko. Pourtant, la cadette, c'était elle, et de 2 bons siècles. Lors de la chute des Boudards, quand il avait fallu fuir les Séanchaniens, Alice s'était montrée intrépide. Aujourd'hui, elle aussi lissait nerveusement le devant de sa robe. L'heure du coucher décrétée par Melfan, la nièce des Sandes, était largement dépassée. Fatiguée en permanence, lorsqu'Elaine avait fait l'effort de se lever, elle ne parvenait plus à se rendormir, et le lait de chèvre chaud n'y changeait rien. À un détail près, il était encore plus mauvais que froid. Pour se venger, Elaine en ferait boire à ce maudit Randaltor, jusqu'à ce qu'il lui ressorte par les oreilles. Mais d'abord, elle devrait découvrir ce qui l'avait blessée assez salement pour qu'elle partage sa douleur, un peu en tout cas, alors que tout le reste, au cœur de l'espèce de nodule qui était lui, dans un recoin de sa tête, était resté indistinct et froid comme une pierre. Et depuis, c'était redevenu comme ça. Donc, Rand fichu Altor allait bien. Mais quelque chose lui avait fait mal assez profondément pour qu'elle le sente malgré la distance. Pourquoi voyageait-il si souvent? Un jour, il était au sud-est, le lendemain au nord-ouest, encore plus loin d'elle, et le jour d'après encore ailleurs. Fuyait-il ce qui l'avait blessé? Peut-être, oui, mais Elaine avait d'autres priorités en ce moment. Incapable de dormir et surexcitée, elle avait enfilé la première robe venue, une tenue d'équitation grise, avant d'aller faire un tour histoire de se régaler de la tranquillité du palais assez longtemps avant l'aube. À ces moments-là, alors que tous les domestiques dormaient, tout ce qu'on voyait bouger dans les couloirs, c'était les flammes de lampes, en plus d'elle-même, bien entendu, et de ses gardes du corps, dont elle réussissait presque à oublier la présence. Contre toute attente, elle avait croisé Alice et Soumeko, porteuses d'une nouvelle qui aurait pu attendre le lever du soleil. Pour en parler à l'abri d'un dôme de silence, elle avait invité les 2 femmes dans le petit salon de ses appartements. Soumeko fit grincer son fauteuil quand elle se pencha pour regarder Alice de travers.
« Réanne t'a laissé outrepasser certaines limites, mais en tant que sœur aînée, j'entends que... »«
Tu n'es pas la sœur aînée, Soumeko, »
lâcha Alice.
« Ici, tu exerces l'autorité. Mais selon notre règlement, le cercle du tricot rassemble les 13 plus vieilles d'entre nous à Eboudar. Comme nous n'y sommes plus, il n'y a plus de cercle du tricot. »«
Au moins, tu reconnais que c'est moi qui commande, »
lâcha Soumeko.
« Et j'espère que tu feras usage de ton autorité pour empêcher qu'il y ait d'autres meurtres. » « Suggérer des mesures ne suffit pas, même avec insistance. Il faut passer au stade supérieur. »« Les querelles ne nous mèneront nulle part, »
dit Elaine.
« Vous êtes sur les nerfs, j'en ai conscience, et je le suis aussi. »
En 10 jours, 3 femmes assassinées avec le pouvoir, et 7 autres avant ça, très probablement. De quoi rendre anxieuse une enclume, oui.
« Nous disputer est la pire chose à faire. Mais tu dois taper du poing sur la table, Soumeko. Besoin d'intimité ou pas ?» Aucune femme de la famille ne doit être seule, ne serait-ce qu'une minute. Alice, sers-toi de ta persuasion.
Ce n'était pas le bon mot. Alice ne persuadait personne. Elle entendait que les gens fassent ce qu'elle leur disait, et il en allait presque toujours ainsi.
Convainc les autres que Soumeko a raison. À vous deux, vous devriez...
La porte s'ouvrit pour laisser entrer Denis, qui la referma derrière elle et s'inclina, une main sur la poignée de son épée et l'autre volant vers son gourdin. Les casques et les plastrons laqués, rouges avec un liseré blanc, avaient été livrés la veille. La robuste garde du corps était tout sourire depuis qu'elle s'en était revêtue. Mais là, Ses traits se révélaient graves sous la grille de son casque.
« Désolé de vous interrompre, madame, mais une Aes Sedai demande à vous voir. Une sœur rouge d'après son châle. J'ai dit que vous étiez probablement endormie, mais elle a menacé d'entrer et de vous réveiller. »
Une sœur rouge. De temps en temps, les rapports mentionnaient la présence en ville de membres de cet Aja. Pas souvent, parce que, à Kaemlyn, la plupart des Aes Sedai ne portaient pas leur châle, afin de dissimuler leur allégeance. Mais que pouvait vouloir une sœur rouge à Elaine? Sans nul doute, ces femmes savaient qu'elle était du côté des Gwen et contre Elaïda. À moins que quelqu'un ait finalement décidé de la faire chanter à cause du marché passé avec le peuple de la mer.
Dis-lui que je...
La porte se rouvrit, percutant Denis et la forçant à s'écarter. Son châle drapé sur les bras pour mettre en valeur les franges rouges, la femme au teint cuivré qui entra était grande et mince. Sans ses lèvres trop fines, elle aurait pu être jolie. Si sombre qu'elle aurait pu être noire, sa robe d'équitation avait pourtant des reflets rouges sur le corsage, la jupe arborant des rayures verticales d'un rouge plus vif. Douara Bazahin ne faisait jamais mystère de son appartenance. À une époque, Soumeko et Alize se seraient levés d'un bond pour saluer une Aes Sedai, mais ce temps-là était révolu. D'habitude très placide, du moins en surface, Denis se rembrunit et pianota sur le manche de son gourdin.
« Comme je le vois, les racontars selon lesquels tu réunis des naturels n'en sont pas, »
dit Douara.
« C'est bien dommage. Vous deux, sortez d'ici. Je veux parler en privé avec Elaine. S'il vous reste un brin de sagesse, partez dès aujourd'hui, chacune dans une direction, et dites à vos semblables de vous imiter. La Tour Blanche déteste les rassemblements de naturels, et quand elle déteste quelque chose, des royaumes peuvent en être ébranlés. »
Soumeko et Alize ne bronchèrent pas. Pire encore, Alize arqua un sourcil.
« Elles vont rester, »
dit Elaine, dangereusement calme. Quand elle s'unissait au pouvoir, ses émotions ne bouillonnaient jamais. Elles restaient stables, dans leur variante glaciale, en cet instant.
« Ici, elles sont les bienvenues. Toi, en revanche. Elaïda a tenté de me faire enlever, Douara. Tu m'entends? Enlever! Alors hors d'ici! » Un bien méchant accueil, Elaine, alors que je viens te voir à peine arriver en ville, après un voyage qui serait aussi pénible à décrire qu'il a été à vivre. Andorre a toujours eu de très bonnes relations avec la tour. Eh bien, la tour désirerait qu'elle le reste. Es-tu sûr de vouloir que des naturels entendent ce que j'ai à dire? D'accord, si tu insistes.
En glissant plus qu'en marchant, Douara approcha d'un buffet, plissa le nez en découvrant la carafe de lait de chèvre, puis se versa une coupe de vin avant de prendre place dans un fauteuil en face d'Elaine. Denis fit mine d'intervenir pour l'éjecter sans douceur, mais la fille héritière lui fit signe de laisser tomber. La domanie rouge ignora Alize et Soumeko, comme si elle faisait partie des meubles.
« La femme qui t'a droguée a été punie, Elaine, fouettée sur le seuil de sa boutique, devant le village au complet. »
Attendant une réponse, Douara but une gorgée de vin. Elaine ne tomba pas dans le panneau. Ronde Makura, elle le savait très bien, avait été châtiée à cause de son échec, pas pour lui avoir fait boire l'horrible décoction. Mais le dire aurait incité Douara à se demander comment elle l'avait appris. De fil en aiguille, on risquait d'en venir à des choses qui devaient rester secrètes. Le silence s'éternisant, la sœur rouge reprit la parole.
« Tu dois savoir que la Tour Blanche souhaite te voir monter sur le trône du lion. Pour t'aider, Elaïda m'a chargé de devenir ta conseillère. »
Elaine ne put s'empêcher d'éclater de rire. Elaïda lui envoyait une conseillère, c'était grotesque.
« Quand j'en ai besoin, des Aes Sedai sont là pour me donner leur avis. Douara, fourre-toi dans le crâne que je combats, Elaïda. De cette femme, je n'accepterai pas une paire de bas. Mon enfant, tes conseillères sont des renégates. »
Avec la main qui tenait sa coupe, Douara fit un geste circulaire.
Pourquoi crois-tu que tant de maisons te combattent ou restent neutres? Parce que tu n'as pas le soutien de la tour. Si je suis à tes côtés, ça changera. En une semaine, tu seras couronné. Un mois ou deux, au maximum.
Elaine soutint hardiment le regard de la sœur rouge. Ses mains auraient volontiers formé des poings, mais elle les en empêcha.
« Même si c'était vrai, je ne voudrais pas de toi. Elaïda sera destituée d'un jour à l'autre, ça ne fait aucun doute. Une fois la Tour Blanche réunifiée, personne ne pourra prétendre que je n'ai pas son soutien.
Un long moment, le visage de marbre, Douara se perdit dans la contemplation de son vin.
« Même ainsi, ce ne sera pas un chemin pavé de roses pour toi, »
dit-elle, comme si elle n'avait pas entendu la dernière intervention d'Elaine.
« Nous abordons la partie qui n'est pas pour les oreilles de ces naturels, selon moi, ni de ta Cerbère. Croit-elle que je vais t'attaquer ? Aucune importance. Quand tu auras ceint la ceinture, tu devras nommer une régente. Parce qu'il te faudra retourner à la Tour Blanche pour finir ta formation et passer l'épreuve. Ne redoute pas d'être flagellée comme une fugitive. Elaïda souscrit à la thèse selon laquelle Suan Sanche t'a ordonné de quitter la tour. Usurper le titre d'Aes Sedai, en revanche. Pour ça, tu paieras le prix fort.
Soumeko et Alise s'agitant un peu, Douara reprit conscience de leur existence.
Vous ne saviez pas qu'Elaine est seulement une acceptée?
Elaine se leva pour défier Douara du regard. En principe, la personne assise avait l'avantage, mais dans ce cas précis, il fallait impressionner son interlocutrice, tout en résistant à l'envie de la gifler, hélas.
J'ai reçu le châle des mains d'Egwene Alvéré, le jour de son accession au poste de Cheir d'Amyrlin. La Javert, que j'ai choisi, m'a accepté en son sein. N'ose plus dire que je ne suis pas une sœur, Douara. La lumière m'en soit témoin, je n'encaisserai plus une telle injure.
Douara pinça ses lèvres déjà trop fines.
Réfléchis, et tu mesureras la gravité de ta situation. Oui, réfléchis, Elaine. Une aveugle verrait à quel point tu as besoin de moi. Et de la bénédiction de la tour, bien sûr. Nous reparlerons de tout ça. Ordonne à quelqu'un de me conduire jusqu'à mes appartements. Je rêve d'un lit douillet. Tu devras te trouver une place dans une auberge. Toutes les chambres du palais sont pleines à craquer.
C'était vrai. Mais dans le cas contraire, Elaine n'aurait quand même pas offert l'hospitalité à la vipère rouge. Lui tournant le dos, elle alla se réchauffer les mains devant la cheminée. Sur le manteau, la pendule dorée sonna 3 coups. Jusqu'au lever du soleil, il devait rester le même nombre d'heures.
« Denis, fais escorter Douara jusqu'aux portes. Tu ne te débarrasseras pas si facilement de moi, petite. Personne n'échappe ainsi à la Tour Blanche. Réfléchis, et tu verras que je suis ton seul espoir. »
Dans un froufrou de soie, Douara sortit du salon. Denis la suivit et referma la porte derrière elle. Il n'était pas impossible que cette sœur rouge soit une source de problèmes, mais pour l'heure, il y avait plus urgent.
« A-t-elle semé le doute dans votre esprit ?»
demanda Elaine à ses deux compagnes.
« Pas le moins du monde, » répondit Soumeko. « Vandaine et les deux autres sœurs te considèrent comme une Aes Sedai, donc tu en es une. »
Soumeko semblait convaincue. Mais il y avait un biais. Elle avait envie d'y croire. Si Elaine mentait, son rêve de retourner à la tour et d'intégrer l'Aja Jaune tomberait à l'eau.
Douara est sûre de dire la vérité.
Alise écarta les mains.
Ne va pas imaginer que je la crois, mais à ses yeux, il n'y a aucun doute. La situation est compliquée,
soupira Elaine. Autant dire que l'eau mouille.
Je suis une sœur, mais Douara le nie. Elle y est obligée, sinon ça reviendrait à admettre qu'Egwene est la chair d'Amyrlin légitime. Tant qu'Elaïda n'aura pas été renversée, elle s'y refusera.
Après, Douara changera-t-elle d'avis? Même à contre-cœur. Parce que la tour devait être réunifiée.
Soumeko, ordonneras-tu aux femmes de la famille de rester groupées, en permanence?
La robuste femme marmonna qu'elle le ferait. Contrairement à Réanne, elle n'avait aucun talent de chef. Et pas la moindre appétence pour le pouvoir. Si une femme plus vieille avait pu prendre sa place, elle aurait été ravie.
Alise, tu feras en sorte qu'elles obéissent?
Alise hocha la tête sans hésiter. Si l'âge n'avait pas été le critère déterminant, elle aurait fait merveille au poste de sœur aînée.
Dans ce cas, nous avons fait de notre mieux. Et vous devriez être couchée depuis des heures. Et toi aussi,
lança Alise en se levant.
Tu veux que je te fasse envoyer Melfan? « Non, inutile de la réveiller, »
répondit Elaine, peut-être un peu trop vite. Petite et replète, Melfan était une joyeuse luronne, toujours prête à sourire, l'inverse de sa tante, en somme. Derrière cette façade, la fichue sage-femme cachait un tyran. Si elle apprenait qu'Elaine était debout à une heure pareille...
« Je dors quand je peux. »
Dès que les deux femmes furent sorties, Elaine se coupa du saïdar et prit un livre sur un buffet. Encore un ouvrage sur l'histoire d'Andorre. Hélas, elle ne put pas se concentrer. Sans le pouvoir, elle se sentait grognonne. Que la lumière la brûle. Épuisée, elle aurait juré avoir du sable dans les yeux. De toute façon, Denis entra alors qu'elle scrutait une page depuis moins d'une minute.
« Maître Nori est ici, madame, avec le type nommé Ark. Ayant entendu dire que vous ne dormiez pas, il se demande si vous pourriez lui accorder quelques minutes. »
Nori avait entendu dire qu'elle était debout. S'il la faisait surveiller, si morose qu'elle fût, Hélène recouvra sa lucidité. Ark. Nori ne le lui avait pas amené depuis sa première visite, 10 jours plus tôt. Non, 11. L'agacement céda la place à la curiosité. Après avoir dit à Denis de faire entrer les deux hommes, elle l'a suivi jusque dans l'antichambre, où un tapis à motifs couvrait la plus grande partie des dalles rouges et blanches. Ici aussi, 2 lampes seulement étaient allumées, fournissant une lumière vacillante. Mais leur huile était parfumée à la rose. Plus que jamais, avec sa crête de cheveux blancs et ses poils dans les oreilles, Maître Nori ressemblait à un échassier. Mais pour une fois, il semblait excité, au point de se tordre les mains. À cette heure, il n'avait pas son dossier de cuir, mais sa veste rouge était toujours constellée de taches d'encre, dont l'une avait coloré de noir le bout de la queue du lion blanc brodé sur un côté. Après qu'il se fût incliné, Ark l'imita maladroitement. Puis il se tapota le front. 2 marques de respect valaient toujours mieux qu'une. Dans une tenue plus sombre que lors de sa première visite, il portait la même ceinture, fermée par la même boucle.
« Désolé pour l'heure tardive, madame, »
dit Nori de sa voix râpeuse.
« Comment avez-vous su que j'étais éveillée ?»
demanda Hélène, submergée par un torrent d'émotions. Surpris par la question, Nori battit des paupières.
Quand je suis allé me chercher du lait de chèvre chaud, une des cuisinières m'a dit vous en avoir fait porter un peu de temps avant. Lorsque j'ai du mal à dormir, ce lait me fait beaucoup de bien. La femme ayant également parlé de vin, j'ai déduit que vous n'étiez pas seule.
Hélène grogna entre ses dents. Pour se défouler, elle aurait bien passé un savon à quelqu'un. Et elle eut un certain mal à le cacher.
Maître Ark. « Je suppose que vous avez avancé ?»«
J'ai suivi notre homme, selon vos ordres, et est allé 3 fois dans la même maison, en comptant ce soir. Dans la nouvelle cité, rue de la Pleine Lune. À part les tavernes, c'est le seul endroit où il va. Dans les salles communes, il boit un peu et il joue beaucoup au dé. »
Ark hésita, mal à l'aise.
« Je peux quitter la ville à présent ? Plus aucune charge ne pèse sur moi. »«
Selon le cadastre, » dit Nori. « Cette maison est la propriété d'une certaine dame Chiaine Avarine, la dernière de sa lignée, dirait-on. »«
Que pouvez-vous me dire sur cet endroit, maître Ark ? Qui vit sous le toit de dame Chiaine ?»
Ark se gratta nerveusement le nez.
« Je n'en sais rien, madame, mais ce soir, 2 Aes Sedai sont venus. Une des deux a fait sortir Mellar pendant que sa collègue entrait en marmonnant. Dommage que nous soyons que 2, Falion, vu ce que dame Chiaine nous épuise. » Dans sa façon de dire « dame », quelque chose clochait, comme si elle ne croyait pas à ses propres paroles. Et elle avait dans les bras un chat de gouttière aussi décharné qu'elle.
De plus en plus nerveux, Ark esquissa une courbette.
« Je vous prie de m'excuser, madame. Parler comme ça d'une Aes Sedai, ce n'est pas mon genre. Mais il m'a fallu une bonne minute pour voir que c'en était une. L'entrée était bien éclairée, mais une femme si ordinaire, personne ne la prendrait du premier coup d'œil pour une Aes Sedai. »
Hélène posa une main sur le bras de l'espion malgré lui.
Que diriez-vous de leur accent, mon ami ?
Leur accent ? Celle qui portait le chat est sûrement d'ici. L'autre, elle n'a pas dit plus de 2 phrases. Mais je parie qu'elle vient du Candor. Sa collègue, elle l'a appelée Marilyn, si ça peut vous aider.
Riant jaune, Hélène fit quelques pas nerveux. À présent, elle savait qui lui avait collé Mellar dans les jambes, et c'était pire que tout ce qu'elle avait imaginé. Marilyn Gemalfin et Falion Boda, 2 surnoirs, avaient fui la tour après avoir commis des meurtres. Pour pouvoir voler plus facilement, certes, mais ça ne les dispenserait pas d'être calmés puis exécutés pour avoir pris des vies. C'était pour les trouver et coincer leurs complices qu'Egwen, Nineveh et la fille héritière avaient été envoyés sur les routes par la Tour Blanche. L'Aja Noir avait introduit Mellar dans son entourage pour qu'il l'espionne, pas pour qu'il l'élimine. Quand même, ça restait une idée angoissante. Pire que tout ce qu'elle avait imaginé, oui. Cela dit, trouver ces 2 femmes bouclait en somme la boucle. La bouche ouverte, Ark la regardait avec des yeux ronds. Pour se donner une contenance, Maître Nori étudiait la queue tachée d'encre de son lion. Elaine s'immobilisa et croisa les mains. Ces fichus hommes.
Où est Mellar en ce moment ?
Dans sa chambre, je suppose,
répondit Maître Nori.
Madame, vous voulez bien me débarrasser de vos tissages et me laisser partir ?
Demanda Ark.
J'ai rempli ma part du contrat.
Non, pour ça vous devez encore nous conduire jusqu'à cette maison,
dit Elaine en filant vers la porte.
Après, nous parlerons.
Passant la tête dans le couloir, la fille héritière y vit Denny en compagnie de 7 autres gardes rapprochés.
Denny, envoie une femme en quête de Dame Birgit et charge une autre d'aller réveiller les Aes Sedai et leur dire d'accourir, avec leur champion, et équipé pour une chevauchée. Toi-même, va tirer du sommeil le nombre de gardes rapprochés dont tu auras besoin pour arrêter Mellar. Inutile de le ménager, ce sale type. Il va être accusé de meurtre et d'être un suppôt des ténèbres. Il faudra l'enfermer au sous-sol, dans une remise et sous bonne garde.
La femme au gourdin sourit d'aise, puis commença à donner des ordres pendant qu'Hélène s'en retournait dans le petit salon. Ark se tordait les mains en sautant d'un pied sur l'autre.
« Madame, ça veut dire quoi, nous parlerons ? Vous avez promis de me débarrasser de cette chose, si j'acceptais de suivre ce type. Je l'ai fait, et vous devez tenir parole. »
« Je n'ai jamais dit que je vous libérerais du tissage, Maître Ark. Tout ce que j'ai promis, c'est un exil à Baerlon au lieu d'une pendaison. Mais vous ne préféreriez pas rester à Kemlin ?»
L'homme écarquilla les yeux, feignant une sincère surprise. Un fiasco. Ne reculant devant rien, il alla jusqu'à sourire.
« Non, madame. Je rêve du bon air frais de Baerlon, c'est juré. Je parie qu'on ne risque pas d'avoir de la viande pourrie dans son assiette, là-bas. Ici, avant de manger, il vaut mieux bien renifler. J'ai hâte de partir, vraiment. »
Elaine afficha l'expression sévère qu'affectionnait sa mère quand elle rendait la justice.
Vous sortiriez de Baerlon 2 minutes après le départ de votre escorte. De retour ici, vous finiriez pendu pour parjure. Franchement, il est moins risqué pour vous de rester à Kemlin et de vous lancer dans une nouvelle carrière. Maître Nori, auriez-vous un emploi pour un spécialiste tel que notre ami ?
Très certainement, madame,
répondit Nori, sans prendre une seconde pour réfléchir. Devant son enthousiasme, Elaine comprit ce qu'elle venait de faire. Lui donner un moyen de marcher sur les plates-bandes de maîtresse Arfor. Mais il était trop tard pour revenir en arrière.
Ce travail ne sera pas aussi bien payé que votre activité antérieure, maître Ark, mais vous ne risquerez plus la potence.
T'as autant payé dans quelle mesure, madame ?
Assez grande, je le crains. Alors, que choisissez-vous ? Baerlon, où vous replongerez dans le crime si vous y restez, certain de finir une corde autour du cou, ou Kemlin, avec une occupation honnête et aucune raison de craindre le bourreau.
Ark vacilla un peu, puis il se passa le revers d'une main sur la bouche.
« J'ai besoin de boire un coup, » marmonna-t-il.
À l'évidence, il pensait que le tissage traqueur informerait Elaine s'il coupait de nouveau une bourse. Eh bien, qu'il le croit si ça lui chantait. Maître Nori foudroya Ark du regard. Voyant qu'il allait parler, Elaine lui brûla la politesse.
« Dans le petit salon, il y a une carafe de vin. Servez-lui une coupe, puis rejoignez-moi tous les deux dans le grand salon. »
La vaste salle était obscure quand la fille héritière y entra. Avec quelques filaments de pouvoir, elle alluma toutes les lampes à déflecteur et fit crépiter des flammes dans la cheminée déjà garnie de bûches. Quand elle eut pris place autour de la table joliment sculptée, Elaine se coupa du saïdar. Après son expérience, restée unie à la source toute une journée, elle n'avait plus essayé une folie de ce genre. D'un coup, elle passa d'une quasi-euphorie à la morosité, puis refit le chemin inverse. Et ce n'était pas illogique. Côté positif, elle n'aurait plus besoin de jouer la comédie avec Mellar, et elle aurait bientôt mis la main sur 2 sœurs noires. Les interroger permettrait peut-être d'appréhender les autres, ou au moins de découvrir leurs plans. Sinon, la femme nommée Shiane aurait sans doute son lot de secrets à révéler. Quand on épuisait 2 suppôts des ténèbres, on apprenait nécessairement des choses intéressantes. Côté négatif, qu'allait faire Douhara pour s'imposer comme conseillère ? Elle ne renoncerait pas, c'était sûr. Mais comment s'y prendrait-elle ? Franchement, Elaine n'avait pas besoin qu'un obstacle de plus se dresse entre le trône et elle. Avec un peu de chance en ce jour, on ne piégerait pas seulement 2 sœurs noires, mais on en démasquerait une 3e, coupable d'une 10aine de meurtres. Même quand Maître Nori et Ark l'eurent rejointe, Elaine eut du mal à ne plus penser à Falion, Marilyn ou Douhara. Un gobelet d'argent à la main, Ark fit mine de s'asseoir à la table, mais Nori lui tapa sur l'épaule et désigna un coin de la pièce. Morose, le voleur mollement repenti, fit ce qu'on lui ordonnait. Il ne devait pas en être à son premier gobelet, car il vida celui-là d'un trait et parut déçu de ne pas pouvoir le remplir. Soudain, il sursauta, puis fit à Elaine un sourire mielleux. Ce qu'il lut sur son visage, cependant, lui arracha une grimace. Approchant d'une longue table poussée contre un mur, il y posa son gobelet avec des précautions exagérées, puis retourna dans son coin. Birgit fut la première à arriver, méfiance et mécontentement se déversant dans le lien.
« Une virée nocturne ? »
grogna-t-elle. Quand Elaine lui eut expliqué, elle se perdit en objections et en imprécations pour une bonne partie.
« De quel plan débile né dans un cerveau malade parles-tu, Birgit ?»
demanda Vandaine en entrant dans la salle. Sur sa silhouette actuelle, la robe d'équitation ayant appartenu à sa sœur pendait misérablement. Quand Adéléas était vivante, le vêtement lui serait allé à merveille, mais elle avait perdu beaucoup de poids. Jaem, son champion, sec et noueux, étudia brièvement Arc et se plaça à un endroit où il pourrait le surveiller. Le nouvel employé de Maître Nori essaya un sourire, mais n'insista pas quand Jaem resta de marbre. Si les cheveux grisonnants du champion allaient en s'éclaircissant, il n'avait rien d'un petit vieux bienveillant.
« Elle prétend capturer deux sœurs noires ce matin !»
répondit Birgit à Vandaine, avec un regard mauvais pour Elaine.
« Deux sœurs noires ?»
s'exclama Sareïta en entrant à son tour. Comme si le monde la faisait frissonner, elle resserra sur son torse les pans de son manteau.
« Lesquelles ?»
Jeune homme grand et carré d'épaules, son champion blond, Ned, considéra un bref instant Arc et posa la main sur le pommeau de son épée. Puis il choisit lui aussi une position d'où il pourrait garder à l'œil le voleur. Très mal à l'aise, Arc sautait d'un pied sur l'autre, comme s'il envisageait de détaler.
« Falion Boda et Marilyn Gemalfin !»
répondit Elaine. L'expression de Sareïta se durcit.
« Qu'y a-t-il au sujet de Falion et Marilyn ?»
demanda Carian en franchissant la porte. Ces trois champions étaient aussi dissemblables que possible. Grand gaillard élancé, Cyril, originaire de Théar, se campa devant la porte aux côtés de Vent, un type filiforme venu du Saldaïa. Quant à Tavan, un colosse du Kérien, il s'adossa contre un mur, les bras croisés. Commençant à se sentir cerné, Arc eut quelque peine à déglutir. N'ayant pas d'autre option, Elaine réexpliqua tout depuis le début, avec un agacement qui ne devait rien à ses sautes d'humeur de femme enceinte. Plus la réunion durerait, et plus il y aurait de risques que Falion et Marilyn aient levé le camp quand ils arriveraient sur place, rue de la Pleine Lune. Elaine tenait à coincer ses sœurs. Pas question qu'elle lui échappe. Mais elle aurait dû forcer Birgit à attendre jusqu'à ce que tout le monde soit là.
« Un bon plan »,
estima Vandaine, quand la fille héritière en eut terminé.
« Oui, ça devrait bien fonctionner. »
Une réaction qui ne fit pas l'unanimité.
« Ce n'est pas un plan, mais une bouffée délirante !»
s'écria Birgit. Les bras croisés, elle foudroya Elaine du regard. Tellement d'émotions tourbillonnaient dans le lien qu'on ne parvenait plus à les distinguer.
« Vous quatre, vous allez entrer dans cette maison comme si de rien n'était, seul. Ce n'est pas un plan, mais un monument de crétinisme. Les champions sont là pour surveiller les arrières de leur Aes Sedai. Laissez-nous venir aussi. »
Les autres champions approuvèrent du chef. Au moins, l'archère n'essayait plus de faire annuler l'opération.
« À quatre sœurs, nous nous protégerons mutuellement, »
insista Elaine.
« Et une Aes Sedai ne demande jamais à un champion d'affronter une autre sœur. »
Birgit se rembrunit davantage, si c'était possible.
« Si j'ai besoin de toi, je crierai assez fort pour que tu m'entendes, même si tu étais resté au palais. Les champions attendront dans la rue. »
De la frustration passa dans le lien, mais l'archère n'insista pas.
« Cet individu est peut-être fiable, »
dit Sareïta avec un regard méfiant pour Arc.
« Mais même s'il a bien entendu ce que disaient les sœurs, ça ne signifie pas qu'elles soient seules dans la maison, ou qu'elles y seront encore. S'il n'y a personne, nous ne serons pas en danger. Dans le cas contraire, nous risquons de foncer tête baissée dans un piège. »
Carian croisa ses bras musclés et hocha la tête.
« C'est trop dangereux. Elaine, tu nous l'as dit toi-même. Quand ses sœurs ont fui la tour, elles ont emporté des Terangreals au pouvoir redoutable. Nul ne m'a jamais accusé de lâcheté, mais je n'ai aucune envie de prendre par surprise des femmes qui peuvent nous accueillir avec des torrents de feu.
Falion a dit « Dommage que nous ne soyons que deux. » Arc ne peut pas avoir mal entendu une phrase si simple, et ces femmes ne semblaient pas attendre des renforts.
Elaine soupira de frustration. Considérant son statut et celui de ses femmes, n'aurait-elle pas dû lui obéir au doigt et à l'œil? Mais non, il fallait qu'elle discutaille.
De toute façon, ce n'est pas négociable.
Manque de chance, Saraïta et Karéan furent deux à rechigner. S'il n'y en avait eu qu'une, ça aurait pu être un indice. Sauf si elles appartenaient toutes les deux à l'âge à noir. Une idée qui glaçait les sangs d'Elaine, mais que son plan prenait en compte.
Falion et Marilyn ne sauront pas que nous arrivons avant qu'il soit trop tard pour elles. Si elles ont filé, nous arrêterons Shiane. Quoi qu'il en soit, nous y allons.
La colonne qui sortit des écuries royales derrière Ark et Elaine était bien plus longue que la fille héritière l'avait prévue. Sur l'insistance de Birgit, 50 gardes rapprochés seraient de l'aventure, juste pour le plaisir de manquer de sommeil, mais bon. Splendides dans leur nouveau plastron laqué, un casque rouge assorti sur la tête, ces femmes chevauchaient en rang par deux derrière les Aes Sedai et leurs champions. Arrivés devant le palais, les cavaliers contournèrent la place de la reine, la grande esplanade ovale désormais bondée d'abris de fortune où dormaient des gardes royaux et des soldats amenés par les nobles. Ces hommes avaient des bons de logement dans toutes les demeures où il restait de la place, mais il n'existait pas assez de caves, de greniers et de chambres d'amis pour les accueillir tous à une distance raisonnable du palais et des parcs à partir desquels des femmes de la famille, formant un cercle, pouvaient les envoyer là où on avait besoin d'eux. Comme ils devaient se battre à pied sur les remparts, leurs chevaux avaient été regroupés dans les jardins du palais ou dans des parcs voisins. Quelques sentinelles ensommeillées relevèrent la tête sur le passage de la colonne. Elaine, ayant relevé sa capuche, tout ce que virent ces hommes, ce fut un détachement de gardes rapprochés qui escortait un petit groupe en pleine nuit. À l'est, le ciel était encore sombre, mais il restait moins de 2 heures avant les premières lueurs de l'aube. Si tout se passait bien, d'ici là, Falion et Marilyn seraient en cellule. Et une troisième traîtresse aussi, au moins. Les rues sinueuses qui traversaient ou contournaient les collines passaient devant des tours couvertes de tuiles en mosaïque, qui brillaient de 1000 couleurs en plein jour et luisaient faiblement sous les rayons de lune voilés par des nuages. Puis les cavaliers dépassèrent des boutiques fermées, des auberges où plus aucune lumière ne brûlait, des maisons aux toits d'ardoise d'une touchante modestie et de petits palais qui auraient pu être à leur place à Tarvalon. Dans le silence environnant, le martèlement des sabots sur les pavés et les grincements de céleri paraissaient assourdissants. À part quelques chiens qui se hâtaient de fuir dans les ruelles latérales, rien ne bougeait à Kemlin. À cette heure, les rues n'étaient pas sûres. Mais aucun ruffian n'aurait été assez inconscient pour montrer le bout de son nez face à un si grand nombre de cavaliers. Une demi-heure après avoir quitté le palais, Elaine, perchée sur cœur de feu, franchit la porte de Mondel, une grande arche ménagée dans le haut mur d'enceinte blanc de la cité intérieure. À une époque, les gardes de la reine y étaient postés pour maintenir l'ordre, mais ils avaient bien trop à faire désormais pour se disperser ainsi. Dès qu'ils furent dans la nouvelle cité, Ark obliqua vers l'est, s'engageant dans le dédale de rues qui rayonnait dans toutes les directions à travers les collines. Sur une jument baie dénichée pour lui, le repenti chevauchait maladroitement. Dans sa profession, on passait peu de temps en selle. Dans ce secteur, pas mal de rues étaient assez étroites. À l'entrée de l'une d'elles, flanquée de bâtiments de pierre de 3 voire de 4 niveaux, Ark tira sur ses rênes. Birgit leva une main pour ordonner à la colonne de s'immobiliser. Le silence, soudain total, parut plus pesant que jamais.
« Juste après l'intersection, devant nous !» souffla Ark. « De l'autre côté de la rue. Mais si nous continuons à cheval, ces femmes risquent de nous entendre. Désolé, madame, mais si ces Aes Sedai sont bien ce que vous pensez, je n'ai aucune envie qu'elles me voient. »
Toujours maladroitement, Ark mit pied à terre, puis il leva sur Elaine des yeux voilés par l'angoisse. Descendant de celle, Elaine avança jusqu'à l'intersection, en tenant cœur de feu par la bride. Dans la rue latérale, toutes les maisons étaient encore sombres, à l'exception d'un grand bâtiment à 4 niveaux, avec la porte d'une écurie sur un côté. Pas un palais, plutôt la résidence d'un négociant prospère ou d'un banquier. Mais à cette heure, ces gens-là dormaient encore.
« Là !»
dit Ark en tendant un bras. Très attiré vers l'arrière, il dut prendre sur lui et se pencher en avant pour désigner la fameuse maison. Il ne voulait vraiment pas être vu.
« Il faudrait savoir si quelqu'un est réveillé là-dedans, »
dit Vanden.
« Jaime, va jeter un coup d'œil, mais n'entre sous aucun prétexte dans la maison. »
Alors qu'Elaine s'attendait à le voir raser les murs, Jaem avança sans se cacher, resserrant sur son torse les pans de son manteau, comme s'il voulait se réchauffer. Loin de faire montre de la grâce féline d'un champion, il progressait d'une démarche pataude. Vanden sentit l'étonnement d'Elaine.
Un comportement furtif attire l'œil et éveille la suspicion. Jaem joue les passants lambda, et même s'il est tôt pour être dehors, il se tient normalement. Comme s'il avait une bonne raison d'être là, en somme.
Jaem ouvrit la porte de l'écurie et entra sans se presser. Quelques minutes plus tard, il sortit, referma derrière lui et revint vers ses compagnons. Dès qu'il eut franchi l'intersection, la grâce et la félinité revinrent en un clin d'œil.
« Toutes les fenêtres sont obscures, à part celle-là, »
dit-il à Vanden.
« La porte de la cuisine n'est pas verrouillée. Même chose pour celle de derrière, qui mène à une allée. Ces suppôts des ténèbres sont plutôt confiants. Dans l'écurie, il y a un grand type d'or dans le grenier à foin. Un colosse susceptible de faire fuir tous les voleurs. Mais si saoul qu'il n'a pas bronché pendant que je ligotais. »
Vanden plissa le front, perplexe.
« J'ai préféré prendre des précautions. Les poivreaux se réveillent parfois au pire moment. Il aurait été dommage qu'ils vous voient entrer et beugle comme un veau. »
La sœur approuva du chef.
« Il est temps de se préparer, »
dit Elaine. Reculant un peu, elle tendit ses rênes à Birgit, puis tenta de s'unir à la source. Autant essayer d'attraper de la fumée au vol. La frustration et la colère lui firent serrer les dents. Deux sentiments à bannir quand on espérait canaliser. Une nouvelle tentative échoua aussi. Si ça continuait, Fallion et Marilyn finiraient par s'enfuir. Être si près du but et... Les deux femmes devaient être dans la pièce éclairée. Elaine en était sûre. Et elle aurait parié que ses sœurs noires tenteraient de s'échapper. La déception chassant la colère, le Saïdar consentit à déferler en elle.
Je fusionnerai nos flux, Sarita. Vanden, fais-le pour Karehan. Je ne comprends pas pourquoi il faut nous lier,
marmonna la Théarienne. Elle s'unit cependant à la source.
À quatre contre deux, nous avons l'avantage. Si nous nous lions par paire, ça fera deux entités contre deux.
Un indice? Peut-être aurait-elle préféré trois contre trois?
Deux, certes. Mais chaque entité sera assez forte pour dominer ses femmes si elles sont unies au pouvoir.
Elaine, se connectant avec Sarahita comme si elle était un Terangréal, la lueur du Saïdar enveloppa vite la Théarienne. En réalité, elle les enveloppait toutes les deux, mais la fille héritière ne voyait que l'aura de l'autre femme. En tout cas, jusqu'à ce qu'elle ait canalisé un tissage d'air autour d'elle. Aussitôt, la lueur disparut. Après s'être enveloppée de la même protection, Elaine prépara quatre boucliers et plusieurs autres tissages inversés. Surexcitée au point d'en avoir le tournis, elle n'avait aucune intention de se laisser surprendre par ses adversaires. Dans le lien, le mécontentement restait très fort, mais à part ça, Birgit était comme une flèche encochée et armée. Elaine lui tapota le bras.
« Tout ira bien, tu verras. »
L'archère grogna et rejeta son épaisse natte par-dessus son épaule.
« Garde un œil sur Maître Arc, Birgit. Il serait dommage qu'il finisse pendu pour avoir tenté de s'enfuir. »
Le coupe-bourse couina de terreur. Elaine consulta du regard Vanden, qui lâcha.
« Si on en finissait. »
Les quatre femmes remontèrent la rue de la pleine lune, lentement, comme si elles se promenaient, puis se glissèrent dans l'écurie obscure. Avec mille précautions, Elaine poussa la porte de la cuisine. Très bien huilés, les gonds ne grincèrent pas. Dans la grande cheminée, un petit feu au-dessus duquel pendait une bouilloire émettait une chiche lumière, suffisante pour que les intruses traversent la pièce sans se cogner contre la table ou les chaises. Une de ses compagnes soupirant, la fille héritière plaqua un index sur ses lèvres. Vanden regarda Karehan, qui parut confuse et écarta les mains en signe de contrition. Un couloir assez court conduisait à un escalier sur le devant de la demeure. Soulevant l'ourlet de sa jupe, Elaine s'y engagea sans un bruit. Depuis le début, elle s'arrangeait pour ne pas perdre Sarita de vue, et Vanden faisait de même avec Karehan. Étant liées, les deux femmes ne pourraient rien faire avec le pouvoir, mais ça ne signifiait pas qu'elles étaient impuissantes. Dès la deuxième volée de marche, Elaine entendit les échos d'une conversation, et de la lumière jaillissait d'une porte ouverte.
« Je me fiche de ce que vous racontez !»
lâcha une voix de femme.
« Laissez-moi réfléchir, et contentez-vous de faire ce que je vous dis !»
Elaine approcha de la porte et jeta un coup d'œil. C'était un salon, avec des lampes dorées, de riches tapis et une grande cheminée de marbre bleu. Trois femmes l'occupaient. Deux étaient debout, la tête humblement baissée, et une assise, Chien, très certainement. La femme, au visage anguleux, écarquilla les yeux quand elle aperçut Elaine sur le seuil. Mais la fille héritière ne lui laissa pas le temps d'ouvrir la bouche. Les sœurs noires, elles, crièrent quand des flux d'air leur plaquèrent les bras contre les flancs et entortillèrent leurs jupes autour de leurs jambes. D'autres flux attachèrent Chien à son fauteuil à dorure. Elaine entraîna Sarita avec elle dans la pièce et se plaça au fond, à un endroit d'où elle verrait tout le monde. Sarita tenta de reculer, peut-être pour ne pas lui boucher la vue, mais Elaine la retint par la manche. Vanden et Karehan entrèrent aussi. Si Marilyn affichait son impassibilité d'Aes Sedai, Falion sifflait de rage comme une vipère.
« Qu'est-ce que ça signifie ?»
demanda Chien.
« Je te reconnais, tu es Elaine Trakand. En quoi ça te donne le droit de faire irruption chez moi et de m'attaquer ?»«
Falion Boda, »
dit Elaine, très calme.
« Marilyn Gemalfin et Chien Avarin, je vous accuse d'être des suppôts des ténèbres. En conséquence, vous êtes en état d'arrestation. »
Le ton était calme. Intérieurement, Elaine jubilait. Au diable Birgit avec ses histoires de pièges et de dangers.
« C'est ridicule, »
répondit Chien, glacial.
« Je marche sous la lumière.
Pas si tu avances en compagnie de ces deux-là, »
répliqua Elaine.
« Sans aucun doute possible, elles ont prouvé à Tarvalon, à Théar et à Tanchico leur appartenance à l'âge noir. Elles ne prennent pas la peine de nier, comme tu le vois. C'est parce que je sais que... »
Soudain, des étincelles crépitèrent autour d'Elaine, du sommet de son crâne à la pointe de ses cheveux. Elle se pétrifia, les muscles tétanisés, et sentit le Saïdar lui échapper. Vanden, Sarita et Karehan subissaient le même sort. Ça ne dura pas longtemps, mais lorsque les étincelles moururent, Elaine eut le sentiment d'avoir été passée dans une essoreuse. Pour ne pas tomber, elle dut s'appuyer à Sarita, qui s'accrocha à elle. Karehan et Vanden se soutenaient, les jambes flageolantes. Falion et Marilyn en restèrent bouche bée, mais l'aura du pouvoir les enveloppa en un clin d'œil. Elaine sentit qu'un bouclier se tissait autour d'elle et de ses trois compagnes. Dans leur état, les entravées ne serviraient pas à grand-chose, vu qu'elles ne tenaient pas debout. Si elle l'avait pu, Elaine aurait crié à s'en casser les cordes vocales, à condition de croire que Birgit et les autres champions pouvaient faire autre chose que courir à leur perte. Quatre femmes bien connues d'Elaine entrèrent dans le salon. Asne Zeramen, liée à Temeil Kinderod, et Chesma Lemri, liée à Eldrid Jondar. Quatre sœurs noires. La fille héritière en aurait pleuré de rage. Sarita, elle, gémit entre ses dents.
« Pourquoi avez-vous attendu si longtemps ?»
demanda Asne à Falion et à Marilyn.
« J'ai utilisé cet artefact pour qu'elle ne sente pas que nous nous initions à la source. Mais pourquoi n'avez-vous pas bronché ?»
La sœur noire, originaire du Saldaea, agita un petit bâton noir recourbé d'un pouce de diamètre. Sur sa surface, on eût dit que la lumière ne se reflétait pas. À l'évidence, l'objet la fascinait.
« C'est un cadeau de Mogedien, une arme de l'âge des légendes. Avec, je peux tuer un homme à 100 pas, ou simplement l'assommer, si je désire le torturer ensuite.
« Moi, »
dit Chesmal,
« pour tuer un homme, il me suffit de l'avoir dans mon champ de vision. »
L'incarnation même de l'arrogance, cette sœur.
Certes,
admit Asne.
Mais ma cible pourrait être entourée de 100 sœurs sans qu'elle sache qui l'a tuée.
J'admets que ça peut être utile,
concéda Chesmal.
Vous deux, pourquoi n'avez-vous rien fait?
Nous étions coupés de la source,
répondit Falion. Eldrit écarquilla les yeux et posa une main potelée sur sa joue ronde.
C'est impossible, sauf si... Elles ont découvert un moyen de dissimuler l'aura et de rendre invisible leur tissage. À coup sûr, ça nous sera très utile.
Merci de votre intervention rapide,
dit Chien en se levant.
Mais avez-vous une raison d'être ici ce soir? C'est Moridin qui vous envoie?
Asne tissa un flux d'air qui alla gifler Chien, la faisant tituber sur ses jambes.
Parle-nous poliment, et nous te laisserons partir avec nous. Sinon, nous t'abandonnerons ici, raide morte.
La joue rouge vif, Chien garda pourtant les mains le long de ses flancs. Sur son visage, impossible de lire quoi que ce soit.
« Elaine est la seule qui nous intéresse, »
dit Temeil. À sa façon, elle était jolie, dans le genre face de renarde. Malgré son visage sans âge, elle faisait penser à une enfant fragile, mais une lueur malsaine brillait en permanence dans ses yeux. Du bout de la langue, elle se titilla une lèvre.
« J'aurais adoré m'amuser avec les autres, mais elles nous encombreraient. « Si tu veux les tuer, »
dit Marilyn, comme si elle parlait de la pluie et du beau temps.
« Épargne Caréane, c'est l'une des nôtres. »
« Un cadeau de la part d'Adéléas !»
souffla Vandaine. Caréane écarquilla les yeux. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Avec Vandaine, elle s'écroula sur le sol. Vandaine tenta de se redresser, mais Caréane ne bougea plus, le manche d'un couteau dépassant de sa poitrine. L'aura du Saïdar l'enveloppant, Chesmal projeta sur Vandaine un flux complexe de feu, d'air et d'eau. La sœur d'Adéléas s'écroula, comme si tous ses os avaient fondu. Le même tissage frappa Sareïta, qui s'effondra, les yeux déjà morts, et entraîna Elaine dans sa chute.
« Leurs champions vont accourir, »
dit Chesmal.
« Un massacre a achevé. Birgit, fuis !»
pensa Elaine, regrettant que le lien ne puisse pas transmettre de mots.
« Fuis !»